on y va. On a quelques minutes de retard, mais c'est bon. Bonjour tout le monde. Donc, moi aussi, je ne suis pas junior, je ne suis plutôt senior, mais je travaille actuellement, je suis en délégation CNRS à Grenoble, et donc je travaille avec des juniors, comme Denis Tristram, par exemple, qui nous écoute peut-être sur le web, et qu'on retrouvera demain. Voilà, donc je vais vous parler de mesures, effectivement, de l'impact environnemental des requêtes HTTP et un travail sur une mesure qui est connue, qui s'appelle EcoIndex, et puis comment peut-être aller un petit peu plus loin avec EcoIndex. Donc le problème, c'est est-ce qu'on peut quantifier l'évolution de l'empreinte environnementale des requêtes HTTP que l'on fait. Donc c'est pas vraiment le web, hein. En général, c'est focus sur les requêtes HTTP. Et pour faire un parallèle, est-ce qu'on est capable d'associer une note, par exemple, aux requêtes HTTP, comme on a le Nutri-Score pour les aliments ? Donc si on veut associer une note, il nous faut effectivement une métrique qui prend en entrée une URL et calcule un score. Et puis on peut imaginer disposer également d'un dataset que l'on explore annuellement, qui est mis à jour annuellement. Et puis chaque année, on lance une campagne de test et on mesure les scores de toutes les requêtes qui sont archivées. Et puis on essaye de déduire, tiens, il y a une évolution dans ce sens ou dans l'autre, des impacts environnementaux des requêtes. Donc voilà l'idée, comment on peut creuser cette idée, c'est un peu l'objet de ma présentation. Alors la technique qui est discutée dans la communauté, je pense en particulier avec dans le cadre d'EcoInfo, c'est une mesure qui s'appelle EcoIndex, en fait, qui est poussée initialement par Frédéric Bordage, avec lequel on a discuté la semaine dernière, me semble-t-il, d'ailleurs. Et derrière EcoIndex, en fait, il y a une vue d'esprit qui repose sur le modèle 3/3, donc client-serveur, si vous préférez. Donc d'un côté, on a les terminaux, au milieu, on a le réseau, et puis au bout de chaîne, on a les data centers que l'on interroge et qui calculent la réponse à votre question et vous renvoient une page HTTP. Donc dans EcoIndex, cette première métrique, en fait, on a choisi de représenter les terminaux en fait, par le nombre de DOM, d'éléments DOM, c'est-à-dire le nombre de balises dans la page qui est retournée. On a choisi également, pour représenter ce qui se passait sur le réseau, en fait, les kilo-octets qui sont renvoyés depuis le data center dans votre navigateur. Et puis, on a choisi de représenter les serveurs par en fait le nombre de requêtes HTTP ou HTTPS qui sont cachées dans la page retournée dans votre navigateur. Donc c'est la vue d'esprit 3/3 en fait du modèle client-serveur qui est derrière cette idée. Donc avec ces trois métriques que j'ai notées ici, DOM, pardon, alors là il y a page, le poids de la page et requête, en fait, avec la formule que vous avez là, eh bien on va calculer le score d'EcoIndex. Donc on voit qu'il y a une normalisation aussi, c'est les facteurs 5 et 6. On voit qu'il y a des poids qui ont été associés aussi à DOM, Request et Size. Et ces poids ont été déterminés par des macro-études, peut-être du Shift Project ou d'autres études. Et puis enfin, on remarque dans cette équation trois fonctions, FD, FS, FR, qui vont en fait renvoyer qui passent par l'intermédiaire de vecteurs de quantiles en fait, et qui calculent en fait un index dans des vecteurs de quantiles pour être agrégés à la mesure d'EcoIndex. Donc c'est pas direct, c'est pas une formule directe, on va dire. On passe par des objets intermédiaires et on va s'interroger sur ces objets intermédiaires. Donc ça, c'est la vue que vous allez pouvoir retrouver et l'implémentation que vous allez pouvoir retrouver à partir du lien qui est en bas de la page. avec un code JavaScript, une implémentation JavaScript. Alors EcoIndex, ce n'est pas seulement cette métrique, mais c'est aussi un ensemble de bonnes pratiques, c'est ce que défend Frédéric Bordage. C'est un score qui est donc comme le Nutri-Score, entre une note entre A et G. Vous avez le code JavaScript ici au vidéoprojecteur. Vous remarquez que les frontières sont basées sur des valeurs 81, vous voyez, 70, 55. On va s'interroger d'où est-ce que ça sort. C'est aussi un score sur l'émission de gaz et un score aussi sur la consommation en eau de votre requête avec les formules qui sont en bas que je ne discuterai pas. Je sais qu'il y a des gens qui s'interrogent sur la pertinence des formules en bas à droite de la page. Alors, quelques critiques sur cet objet EcoIndex. Donc, l'EcoIndex ne considère pas l'impact, j'allais dire, environnemental de l'ordinateur à partir duquel vous faites la requête ou le parcours utilisateur également de la personne. C'est uniquement une requête, mais pas tout un parcours. Ce n'est pas non plus une mesure au sens life cycle management, c'est-à-dire analyse du cycle de vie non plus. Donc on ne prend pas en compte le coût environnemental des différents équipements qui se situent entre vous et les data centers. Le bon côté de la chose, c'est quand même une mesure qui nous permet de discuter, justement, comme je le fais aujourd'hui avec vous, discuter des limites de ce modèle. Un autre bon côté, c'est que c'est aussi implémenté dans votre navigateur, donc c'est un plugin aussi comme votre navigateur, et ça exécute réellement la requête, ça calcule le nombre d'objets DOM, etc., etc. Donc c'est pas une simulation un peu nébuleuse, c'est derrière il y a des implémentations concrètes. Donc c'est plutôt positif. Des limitations maintenant liées au calcul lui-même. Donc les poids 3, 2, 1 que vous avez vu apparaître tout à l'heure dans la formule, c'est des poids qui ont été et qui sont là de manière statique, qui ne considèrent pas potentiellement la variation dans le temps de ces poids, parce que en fait les gens qui développent des sites généralement adoptent ou on peut penser qu'ils adoptent de meilleures pratiques de développement. Et donc, d'année en année, quand on interroge la même page, peut-être que les notes vont varier. Donc ça, ce n'est pas capté au niveau de EcoIndex. La stabilité des quantiles aussi au niveau du temps. Donc, c'est aussi des quantiles qui ont été déterminés de manière statique. Donc, il y a trois vecteurs dans l'implémentation. On peut aussi s'interroger sur le fait que potentiellement ces valeurs peuvent varier d'année en année. EcoIndex ne tient pas en compte non plus l'aspect dynamique des sites. Hein, quand vous allez sur un journal, Le Monde ou autre, l'information change et donc ce qui vous est retourné sur la page de garde du journal aussi varie. Alors là, on pense que ça évolue de manière marginale, donc on peut peut-être éliminer cette critique. Et puis, dernière critique, c'est les scores ABC sont déterminés à partir des seuils qui sont aussi figés dans le code, et on peut s'interroger, mais d'où viennent ces seuils ? Des limitations inhérentes aussi aux attributs qui font sens. On peut imaginer étendre un peu la notion pour ne pas rester que sur les trois paramètres DOM, Request, Size, et puis essayer d'intégrer dans le modèle un bouquet énergétique, prendre en compte le fait que les requêtes passent soit sur des réseaux mobiles, soit sur des réseaux filaires. On pourrait imaginer agréger aussi comme attribut dans notre modèle un impact de CO2 de l'opérateur qui opère, par exemple, comme je vous montrerai tout à l'heure, etc., etc. Donc potentiellement, on peut se dire, mais pourquoi trois paramètres, trois attributs dans le modèle? Pourquoi ne pas aller sur 10, 100 ou plus d'attributs? Et à partir de là, avec quel outil aussi on doit continuer nos explorations? Des limites liées au modèle. Donc EcoIndex, c'est le modèle 3 tiers. Mais on peut se dire qu'il y a d'autres modèles d'interaction aussi dans la nature, comme par exemple le modèle client-side web programming. Je ne sais pas si vous connaissez ces deux projets. À droite, Brighton, c'est un interpréteur Python dans le navigateur. Donc pour l'utiliser, vous téléchargez en fait une fois pour toutes l'interpréteur à partir d'un site de référence et ensuite vous développez en Python dans votre navigateur. À gauche, c'est un Jupyter Notebook dans votre navigateur, donc écrit aussi en JavaScript finalement, et donc qui interprète comme du Python, en fait, comme le fait un notebook Jupyter. Mais là encore, le gros du travail ne se fait plus dans les data centers d'Amazon, Google et compagnie. À partir du moment où vous avez téléchargé l'interpréteur, il se fait dans votre navigateur. Donc pourquoi ne pas étudier aussi ce type d'interaction? Alors, pour remettre en cause, on peut prendre deux voies différentes, un peu ce modèle, ou l'étendre, c'est-à-dire aller vers plus d'attributs. D'une part, c'est le point 2. Et puis le premier point, c'est comment on peut se passer aussi de ces vecteurs de quantile. Donc on a au moins deux voies de recherche pour aller au-delà de EcoIndex historique. Alors, on peut prendre appui sur des techniques d'apprentissage dont la communauté en fait dispose d'outils en fait pour traiter des problèmes avec de très grands nombres d'attributs, 100, 1000 attributs. Ça s'appelle par exemple les projections aléatoires ici. Et si vous utilisez cet outil, en fait, vous êtes en fait dans un espace à n dimensions. Et vous allez projeter en fait sur la droite. D'accord ? Donc là, on garde un peu comme EcoIndex, où je réduis en fait mon vecteur à n attributs, je le réduis à une valeur, d'accord ? Unique. Donc ça, c'est bien. On peut, dans le même ordre d'idée aussi, avec des outils toujours de data science, utiliser cette technique, LSH, c'est un peu la même chose, qui va réduire la dimension de votre problème, qui permet de traiter des problèmes à grande dimension et qui, à nouveau, va projeter votre vecteur à n dimensions, en fait, sur la droite. Et l'idée, c'est maintenant de dire que la position sur la droite, eh ben, c'est la valeur de l'éco-index. D'accord ? Mais je garde l'idée de réduire, c'est le dernier point, à une seule valeur. Je peux voir les choses complètement différemment et cette fois-ci, au lieu de réduire à une seule valeur, c'est de fabriquer une carte. Donc là aussi, en data science, il y a des outils, ça s'appelle les cartes topologiques, par exemple ici, qui est en fait une clusterisation de vos data. Alors j'ai fait ça justement là, pendant ce week-end, j'ai construit une carte topologique à partir de données en fait, de l'ARCEP à gauche, de Enedis au milieu et de Enedis à droite. Tout à droite, c'est des informations de production d'électricité sur un dataset de Enedis. Au milieu, c'est un dataset de production, de consommation pardon, d'énergie, d'électricité chez Enedis. Et à gauche, c'est des informations de l'ARCEP, donc l'autorité de régulation des télécommunications. Donc on vous donne comme attribut, par exemple, le nom de l'opérateur à partir de qui vous avez fait votre requête. Vous voyez également en bas à gauche l'URL. Donc l'ARCEP vous donne des URL, l'opérateur, la latitude et la longitude à partir de laquelle vous avez produit la requête. Et puis vous croisez de fil en aiguille, vous pouvez croiser les informations en fait avec les autres attributs en rouge ici et produire en fait un nouveau dataset qui est composé d'une quinzaine ou d'une vingtaine d'attributs. Donc là, j'ai fait ressortir uniquement les attributs sur les opérateurs. Vous avez au milieu à peu près, vous avez les requêtes. À droite des requêtes, vous avez les valeurs d'éco-index correspondantes. Et puis sur la droite, en fait, vous avez les valeurs liées à la production d'électricité de la ville à partir de laquelle s'est produite en fait la requête HTTP. Donc vous considérez ce dataset et vous vous interrogez, vous cherchez, tiens, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans ce dataset? Et vous allez produire avec les cartes topologiques, en fait, des objets comme vous avez à gauche ou à droite. Alors là, j'ai demandé un cluster, enfin, j'ai demandé 3 clusters et puis à droite, 5 clusters. Donc là, je vois un petit objet jaune. Tiens, il m'a clusterisé ici, voilà, un objet jaune. À quelle ligne dans ma table ça correspond? Qu'est-ce que cet objet a de particulier? Donc, les cartes topologiques vont m'aider à m'interroger, en fait, dans la phase d'exploration de mon dataset, en fait, et à chercher des propriétés sur mon dataset. Donc, ça, c'est un travail qui est en cours. Voilà, pour conclure, l'éco-index et ses extensions. L'éco-index de base que j'ai appelé historique nous permet de nous interroger, en fait, sur l'impact environnemental des requêtes HTTP. Par la suite, on doit peut-être mieux s'interroger sur les relations entre les différents modèles 3/3, ou donc de type client-side ou server-side web programming, par exemple. On doit mieux comprendre les rapports entre ce modèle et les analyses de cycle de vie. On doit s'interroger aussi sur les meilleures pratiques. Et puis, notre travail en cours ici, c'est de nous immerger dans une problématique plus de data science, en fait, et de nous servir des outils de la data science pour explorer des jeux de données qu'on peut trouver à droite à gauche, qu'on peut agréger de différentes manières à droite et à gauche. Voilà, avant de faire émerger de nouvelles questions plus élaborées. Donc voilà un petit peu notre feuille de route pour le futur. Il y a des implémentations également qui sont disponibles à partir du site web. On a fait une analyse statistique assez récemment avec Mathilde, qui est ici, qui est disponible également sur le site web. Et vous pouvez rejouer un certain nombre de choses avec les codes qu'on a mis en ligne. Tout est en Python ici. Okay, ça ne tourne pas dans votre navigateur, hein, ça tourne avec la ligne de commande. Voilà, il y a plein de choses à explorer. Je vous invite à regarder et puis à revenir vers nous. Voilà, donc je remercie Mathilde qui est là devant moi. Il y a Laurent aussi qui a participé aux discussions. Notre ami Denis que l'on verra demain et qui également alimente la discussion. Merci beaucoup.